Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Radio France Internationale et France 24 pour Ici l'Europe. Le monde change tout autour du Club des 27 et nous sommes aussi à la fin d'une semaine très bousculée à Bruxelles avec de grands oraux des futurs commissaires européens qui ont viré au psychodrame entre les groupes politiques du Parlement européen. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui l'un des vice-présidents de ce Parlement européen et il s'agit d'ailleurs d'un Français, Younous Omarjee. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputé insoumis, proche d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez été investi d'un portefeuille inédit par la présidente de l'institution Roberta Metsola. Vous êtes originaire de la Réunion et vous représentez donc l'institution Parlement européen auprès des régions, des villes européennes, aussi en charge des îles et de l'outre-mer européenne. Alors vous sortez de 2 semaines d'audition intense des 26 commissaires de la commission von der Leyen 2. Est-ce que votre sentiment global, c'était que le niveau était bon et que les intitulés des postes étaient clairs?
C'est d'abord un moment de démocratie européenne. Tout le monde se souvient que Edith Cresson, qui était confrontée à des suspicions de conflit d'intérêts pointées par le Parlement européen, avait dû démissionner. Ça avait entraîné la démission de toute la commission Santer, puis la création de l'organe de lutte contre la fraude et la corruption, l'OLAF, et dans la foulée, ces auditions des commissaires européens. Ce qui donnait du pouvoir au Parlement européen et renforçait la démocratie. Je note, par exemple, qu'en France, le gouvernement, l'ensemble des ministres sont imposés. Il n'y a pas cette séquence où on évalue à la fois la capacité des commissaires à exercer leur fonction, leur portefeuille, et aussi voir s'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Donc c'est un moment qui doit être envisagé très sérieusement. Et nous regrettons évidemment la manière dont cela se déroule depuis le début, ce qui affaiblit le Parlement européen, car des...
Tous les groupes se tiennent par la barbichette,
oui,
ils sont en train de se faire du chantage les uns les autres.
Et on est très loin.
Ton commissaire,
exactement,
ton commissaire.
Et on est très loin du travail sérieux qui doit être fait dans les commissions parlementaires pour évaluer précisément la capacité d'un commissaire à assumer ses fonctions. Et aujourd'hui, ce sont des considérations qui n'ont plus rien à voir avec cela, qui entrent en ligne de compte et qui viennent parasiter ces auditions.
Prenons le cas par cas. Hein. Au cœur de la polémique, l'Italien Raffaele Fitto, nommé par Giorgia Meloni et issu de son parti de droite radicale Fratelli d'Italia. La vice-présidente von der Leyen a voulu lui confier d'ailleurs une vice-présidence de la Commission et le portefeuille de la cohésion, qui est en fait un très gros portefeuille. C'est un tiers du budget de l'Union européenne pour les régions les plus pauvres et les gens les plus pauvres d'ailleurs. Est-ce que c'était une bonne idée?
J'ai été président de la Commission du développement régional, donc je suis avec beaucoup d'attention l'audition de Raphaël Fitto et la nomination du futur commissaire. Ce sont des enjeux très importants. C'est à peu près le tiers du budget européen. Il aurait été surprenant que Giorgia Meloni nomme un gauchiste à la Commission européenne. Et il est attendu, il est normal qu'elle nomme quelqu'un qui fasse partie de sa majorité. En l'occurrence, Raphaël Fitto, qui... Et peut-être parce qu'il a été le président du groupe ECR au Parlement européen, donc celui
qui... conservateur et réformiste, donc...
Oui, celui qui, dans la mouvance de Meloni, est celui qui connaît le mieux les institutions européennes. Mais en même temps, il vient du parti Fratelli d'Italia, un parti d'extrême droite, et voilà qu'il est propulsé comme premier, comme vice-président de la Commission européenne. Mais l'audition de Raffaele Fitto est intéressante parce que à la fois il a été poussé dans ses retranchements sur la question de sa maîtrise des enjeux en matière de politique de cohésion, mais également sur un certain nombre de dimensions politiques qui sont extrêmement importantes parce que chaque commissaire doit en réalité porter les valeurs de l'Union européenne,
voilà,
et en particulier des droits fondamentaux. Donc il y a là une difficulté.
On lui enlève sa vice-présidence, qu'on le retoque
Pour notre groupe, il est évident que nous n'allons pas accepter le candidat de Giorgia Meloni, mais ce qui pose question, c'est que Ursula von der Leyen décide de faire de l'italien, quel qu'il soit, un vice-président de la Commission européenne. Et cela donne une indication, en réalité, sur les orientations de la présidente de la Commission européenne et sur cette alliance qui se fait au fur et à mesure avec l'extrême droite.
On avait compris que c'était au centre, en fait, que c'était le Parti populaire européen, donc la droite, son parti, en l'occurrence Renew, et les socialistes, que ça se jouait. Et là, on voit qu'ils sont véritablement en frontal. C'est des grands marchandages. Ils veulent effectivement nuire aux commissaires les uns des autres. Et puis surtout que peut-être ce PPE est tenté de faire une alliance plus à droite.
C'est ça, ce que vous nous dites ? Et c'est le danger. Ursula von der Leyen, lors de la dernière législature, avait été élue à 7 voix près. Et elle avait eu besoin des voix du centre et des écologistes. Il y avait eu le pacte vert qui a été annoncé, quoi qu'on puisse en penser. Il y avait eu quelques progrès du fait d'une majorité qui se faisait avec le centre, avec les verts, avec les socialistes. Et puis nous avons parfois pris part à un certain nombre de décisions progressistes. La situation est totalement inverse aujourd'hui parce que vous avez une nouvelle possibilité de majorité dans le Parlement européen.
À droite toute.
À droite toute, avec l'alliance des droites, qu'on a déjà vue dans certains pays, extrême droite et droite traditionnelle. Et nous l'avons vu dans les derniers votes au Parlement européen. Donc c'est une question aujourd'hui extrêmement importante. Où va se déplacer le centre de gravité du Parlement européen? Il y a un risque très élevé que nous entrions dans un moment de déconstruction de toutes les avancées qui avaient pu être obtenues et qui doivent continuer à être obtenues en matière de lutte contre le réchauffement climatique, en matière de défense des droits fondamentaux, en matière de défense des droits des femmes. Il y a eu un texte, par exemple, concernant la déforestation, où on voit qu'il y a une nouvelle majorité qui est en train de s'affirmer pour remettre en cause un certain nombre d'acquis en matière écologique.
Les échanges de ces auditions ont été particulièrement houleux chez une autre vice-présidente, l'Espagnole Teresa Ribera, qui sera en charge de la transition écologique et future vice-présidente aussi, qui est socialiste, nommée par Pedro Sanchez. Donc, elle a été critiquée beaucoup par justement la droite et l'extrême droite pour son absence lors du débat national sur les inondations à Valence. Ça a été très politisé.
Cette politisation est indigne. Et la manière dont Mme Ribera a été mise en cause pendant l'audition affaiblit considérablement le Parlement européen. Et celles et ceux qui ont pris part à cette agression, parce qu'il s'agissait d'une agression, sont, à mon avis, assez affaiblis aujourd'hui. Et je regrette, par exemple, que François Bellamy ait participé à cela. Cela veut dire que nous sommes tenus en otage par un certain nombre de différents politiques au niveau national. En France, en Espagne, la situation entre la droite populaire, Vox, et les socialistes est extrêmement tendu. Et tout ceci rejaillit au Parlement européen et nous éloigne en réalité considérablement du travail que nous devons faire très sérieusement pour valider les commissaires européens.
Au mérite. Alors, quid du candidat français Stéphane Séjourné, vice-président en charge de la prospérité et de la stratégie industrielle? Comment vous avez jugé son grand oral en ce qui le concerne?
Je souhaite d'abord que Stéphane Séjourné soit véritablement un commissaire français sur lequel nous pourrons compter lorsqu'il s'agira de défendre les intérêts français et en particulier les intérêts des régions ultra-périphériques en Europe. Son audition s'est passée dans les formes acceptables.
Vous l'avez trouvé convaincant?
Manon Aubry, pour notre groupe, lui a posé les questions qui devaient être posées. Il a apporté les réponses qu'il pouvait apporter. Et nous verrons à présent à quel moment ce collège des commissaires sera présenté devant le Parlement européen. il y a encore une incertitude, car les grands groupes politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord.
Ça pourrait être repoussé en plus.
Et nous entrons jour après jour
dans
une crise politique. Et une crise qui affaiblit considérablement les institutions européennes.
Vous avez mentionné les questions que la chef de votre groupe, Manon Aubry, a posées. En effet, elles portaient sur les accords du Mercosur avec l'Amérique latine, alors que les agriculteurs français affichent un vif mécontentement et menacent de nouvelles actions. C'est Michel Barnier, le Premier ministre, qui dit qu'il n'acceptera pas cet accord dans les conditions actuelles. Simplement, c'est la Commission qui négocie. Alors, et puis d'ailleurs, ces journées sont obligées du coup de plutôt soutenir cette négociation. Qu'en est-il ?
On voit bien dans cette affaire les pouvoirs tout à fait exorbitants de la Commission européenne, qui négocie seule, qui détient des informations qu'elle ne transmet parfois ni aux États membres et encore moins au Parlement européen. Ce que nous disons, c'est que les affirmations aujourd'hui du Premier ministre Michel Barnier, qui consistent à dire que la France refusera le Mercosur, doivent véritablement être suivies d'effet. C'est-à-dire que la France doit organiser au sein du Conseil européen une minorité de blocage de cet accord, en même temps que la mobilisation des agriculteurs doit continuer à s'amplifier. C'est le seul moyen que de pouvoir faire reculer la Commission européenne, qui a fait le choix, il faut bien le dire, de tuer une partie de l'agriculture européenne. Je suis très inquiet en tant que réunionnais par cet accord, parce que vous avez une clause de libéralisation du sucre brésilien qui va rentrer libre de droit sur le marché européen et qui va continuer à venir fragiliser l'industrie sucrière, betteravière, en Europe et l'industrie sucrière de la canne à sucre dans les Outre-mer français.
Alors, parlons bien sûr de grands défis pour l'Europe, l'élection de Donald Trump, ses intentions concernant la guerre en Ukraine à nos portes ne sont pas très claires, c'est le moins qu'on puisse dire, ou en tout cas, est-ce que vous estimez que nous allons monter en puissance sur la défense européenne au point de pouvoir contrer un désengagement américain, par exemple ?
L'élection de Donald Trump, c'est le temps pour l'Europe véritablement d'exister. C'est l'ordre qui nous est donné d'exister véritablement en tant que puissance. Il y a, vous l'avez dit, une ambiguïté stratégique du côté de Donald Trump, une très grande imprévisibilité dans la manière dont il va conduire sa politique internationale. Mais nous avons tout de même un certain nombre d'éléments qui peuvent être de nature à inquiéter les Européens. D'abord, bien sûr, le conflit en Ukraine. Quels seront les accords qui seront faits entre l'administration américaine et Vladimir Poutine sur cette guerre qui est en Europe et où nous avons, nous, la responsabilité en tant qu'Européens, non seulement à continuer à défendre l'Ukraine, mais aussi à s'assurer que Vladimir Poutine ne continue pas dans ses volontés agressives vis-à-vis de l'Europe. Et croyez bien,
même si votre groupe, la gauche, est plus réservé sur l'adhésion de l'Ukraine au club européen, là-dessus, vous n'êtes pas tous d'accord.
Oui, bien sûr, il peut y avoir des divergences d'appréciation. La perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne pose question. Elle pose question aussi sur les intérêts d'un certain nombre de pays européens. Et tout ceci doit être préparé. On doit préparer, par exemple, la future politique agricole commune, pas celle du prochain cadre, mais celle d'après, sur les impacts de l'entrée d'un des plus grands pays agricoles en Europe.
Et donc, on n'est pas bien préparé.
Alors, on n'est pas du tout préparé.
Quand même, si
et
vous
les conséquences peuvent être très négatives. Donc il faut anticiper.
Le parti français a requis 5 ans de prison, dont deux enfermes aménageables, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité, contre Marine Le Pen, qui juge au centre d'un système organisé visant à faire du Parlement européen la vache à lait du RN, un préjudice financier évalué à 4,5 millions d'euros. Ce procès, finalement, dont on nous dit qu'il est très politique, il vient quand même de problèmes internes et de contrôle au Parlement européen.
Nous devons protéger le budget européen. Je suis vice-président du Parlement européen. Le Parlement européen est partie civile dans cette affaire. Donc vous comprendrez qu'il m'est très difficile dans ce moment de faire des commentaires sur le procès. Et nous sommes dans un moment où nous attendons la décision qui n'est pas encore intervenue.
Mais quand on crée un procès politique ?
Non, il n'y a pas de procès politique. Il y a eu la constatation par le Parlement européen de la violation des règlements du Parlement européen qui s'impose à l'ensemble des groupes politiques et qui s'impose à l'ensemble des députés européens. Et chacun comprend bien que lorsque un règlement s'impose à un député, il doit être respecté, ni plus ni moins. Cela est vrai pour les députés du Rassemblement national, comme cela est vrai pour l'ensemble des députés du Parlement européen, dans tous les groupes politiques du Parlement européen.
Merci à vous, Younous Omarji, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes.